avec les jeunes professionnels, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a la difficulté à unifier sa vie. Et que unifier sa vie, justement, parce qu'on voit qu'il y a des compartiments. Il y a la partie pro, il y a la partie perso, et dans la partie perso, il y a la partie sentimentale et familiale, et la partie spi. Hein, pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche spirituelle. Voilà, donc, donc la maturité, je trouve que la maturité, c'est vraiment cette dimension de, d'unifier les choses. C'est là où on voit qu'il y a une unité. C'est une unité intérieure, et donc une certaine paix intérieure. Un autre point qui me paraît capital, c'est l'accueil du réel. Et ça, on en parlera souvent dans le topo. Où est-ce que j'en suis de cet accueil du réel entre la personne rêvée que je projette être, ce qui n'est pas forcément mauvais, remarquez bien, parce que ça permet aussi de se tirer vers le haut, etc. Mais surtout si on a été éduqué dans une mentalité perfectionniste, du coup, on n'est jamais assez bien à la hauteur à laquelle on pense ou nos parents ont pensé nous conduire. Hein, donc, l'accueil du réel tel qu'il est. Où est-ce que j'en suis de cet accueil, de ce que je n'ai pas choisi, au fond, parce que bien souvent, tant en termes de santé qu'en termes de situation amoureuse, qu'en termes de situation professionnelle, il y a des choses qui s'imposent à moi. Donc, la maturité va consister à dire, c'est ce que disait le philosophe Pascal, les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Hein, est-ce que j'accueille ça ou alors il peut y avoir une immaturité, on y viendra après, à trépigner, parce que voilà, je ne veux pas accepter, au fond, ce qui parfois je n'ai pas choisi. Hein, un certain nombre d'entre vous sont dans l'état, par exemple, de célibat qui n'est pas choisi, qui est plus subi que choisi. Ben voilà, comment est-ce que dans ce célibat-là, j'accueille aussi comme un lieu de fécondité, un lieu de maturation. Hein, si on avait parlé d'un autre topo sur le célibat, vous trouvez ça sur le site Spi & Speed. Les conférences sont enregistrées, donc vous pouvez les réécouter aussi par la suite. Hein, au fond, la maturité humaine, elle donne une force intérieure qui me permet d'aimer davantage. La maturité vise l'action. Hein, je trouve que c'est ça, c'est la maturité, c'est comme le discernement, ça vise l'action dans le sens où ça permet d'aller, c'est pas simplement pour se regarder en disant comme je suis beau, comme je suis belle, non, ça vise rentrer dans une logique de don. C'est là où on voit une personne qui est mature. Elle n'a pas peur de se montrer, elle n'a pas peur de se donner, hein, dans les différentes circonstances de sa vie. À contrario, l'immaturité humaine, je rends deux choses en particulier. Hein, premièrement, on peut dire une vision négative de soi. Pourquoi ça permet de ne pas oser dire « je », c'est-à-dire ne pas oser dire « non ». Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne qui avait des difficultés dans sa vie professionnelle, hein, de vos âges. Et elle me disait, cette personne-là... Mais au fond, le fait d'avoir des difficultés, d'être parfois maltraité par mes supérieurs, etc., mais est-ce que je ne peux pas l'offrir en sacrifice et devenir comme Jésus qui s'offre en sa passion? Bon, je lui ai dit, on va peut-être se calmer tout de suite, parce que Jésus qui s'offre en sa passion, oui, ben j'y crois, mais c'est peut-être pas forcément ce qui t'est demandé. Explique-moi par le détail un peu où est-ce que tu en es de ta vie professionnelle. Et en fait, qu'on rentrait dans le détail... En fait, il n'arrivait pas à dire non, il y a une question de maturité, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ne résolvons pas nos immaturités humaines en spiritualisant. Alors du coup, je spiritualise, du coup, ça me permet, voilà, ça me donne une raison de rester immature. Ben non, au contraire, Jésus en sa passion, c'est vraiment la maturité, c'est rentrer par amour pour l'humanité, par amour de Dieu le Père, il rentre dans une logique de don, le don de soi-même, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc juste pour vous dire que, et pourquoi ça? Parce qu'il a un manque de confiance en lui, manque de, pas accepter de dire « je », peur du conflit, Bon, tout ça, et donc du coup, peur du conflit, du coup, forcément il se prenait en pleine poire les réflexions de ses supérieurs, etc. Hein? Mais aussi, au fond, il peut y avoir une autre forme d'immaturité qui est donc la mésestime de soi-même, une certaine mésestime de soi-même, mais aussi il peut y avoir au contraire une hypertrophie de l'ego. Au fond, dans l'immaturité, il y a quelque chose d'encore infantile en nous, qui n'est pas devenu adulte. Et dans l'enfant, on voit l'enfant, justement, forcément, il n'a pas trop confiance en lui, mais l'enfant, il peut être aussi dans la toute-puissance. Hein, l'enfant qui trépigne, il y en a un nourrisson, il est dans la toute-puissance, donc ben, voilà, quand il se réveille la nuit, etc., bon, ben, on voit bien que le fait de crier, ben, c'est là. Et du coup, il faut, l'éducation concerne à faire sortir de la toute-puissance pour amener dans l'âge adulte. Mais on voit des personnes qui, à 20, 30 ou 40 ans, sont en train de trépigner. Alors, elles ne trépignent pas comme des enfants, mais qui font des caprices. Des caprices parce que, voilà, il y a une forme de toute-puissance, d'ego surdimensionné, qui n'est pas justement, il n'y a pas une éducation à la frustration. Or, dans l'éducation, à un moment donné, il faudra que l'enfant prenne conscience que non seulement il est, c'est sa maman et son papa, mais d'abord que sa maman, c'est l'épouse de son papa, et que son papa, c'est l'épouse de sa maman. Je veux dire qu'il sorte d'un aspect fusionnel qui est tout à fait normal au début de l'enfance, mais pour justement devenir adulte. Et je vous renvoie le topo que j'ai donné, qui est sur le site de SPNSP, au mois de juin, sur en quoi la relation avec mon père influe-t-elle mes décisions. Et donc, justement, parce que c'est au rôle du père de faire cette séparation d'avec la mère, de cette surprotection, j'allais dire souvent classique, de la maman sur l'enfant, pour l'emmener vers l'âge adulte. Et il se trouve que le garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, je parle un peu de sa famille. J'arrive à la question du père. Mon père, il est inexistant. Il est inexistant. C'est pas qu'il n'existe pas physiquement, oui, il est là encore dans ce bas monde, mais dans la famille, il n'y avait jamais une parole d'autorité, jamais une parole d'autorité. C'est maman qui manageait tout. Et donc, du coup, lui-même, on voit bien qu'il avait la difficulté à s'identifier avec son père. Il n'avait pas non plus été boosté pour être plus loin que la sécurité maternelle. Bon. Donc on voit bien que ces formes d'immaturité, c'est le point 2 donc, de l'immaturité humaine, sa jalousie, susceptibilité, colère, impulsivité, procrastination, on repousse toujours au lendemain, instabilité émotionnelle, manque de discernement, hein, qui viennent de nos expériences et entraînent une déviation, un manque de sécurité, de confiance en soi. Les actes ont des conséquences en nous, ben oui. Parce que n'accusons pas simplement l'éducation. Ah, si j'avais eu un père qui était debout, un homme debout, et qui m'aurait encouragé, sur lequel je me serais appuyé, sur lequel... Bon, ben voilà, il se trouve peut-être que tu as un père qui est dépressif, peut-être tu as un père qui a été très absent, peut-être tu as eu une mère peu tendre, je ne sais rien. Là, les parents qu'on a, c'est les parents qu'on a, ils ont donné le maximum avec ce qu'ils étaient, leurs propres blessures aussi. Mais à un moment donné, on pose des actes. Et à vos âges, vous avez déjà posé un certain nombre d'actes. Et ces actes-là nous conduisent vers l'âge adulte ou nous conduisent dans une certaine immaturité. Prenons la question du manque de certaine manque de confiance en soi, mais qui viendrait d'un repli sur soi, d'une certaine négativité sur soi-même. Ça se travaille. Ce n'est pas une fatalité. Et ça, je pense que c'est très important. Je vais énumérer. Le problème, c'est qu'on traite sur ces sujets-là et qu'à la fin, on coche toutes les cases. Vous voyez, c'est un gros problème, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Mais je peux avoir cette immaturité-là dans le sens de manque d'appréciation de moi-même, etc. Mais qu'est-ce que je fais pour en sortir? Qu'est-ce que je fais pour en sortir? Oui, peut-être je n'ai pas été valorisé. Oui, peut-être ma sœur ou mon frère ont été plus mis sur un pinacle que moi. Et aux yeux de mes parents, je n'étais pas à la hauteur, je n'étais pas la fille ou le fils dont ils rêvaient, ou etc., etc. Ou au niveau études, je suis pas rentré dans les clous familiaux. Bon, soit. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un jeu de mots sans le vouloir. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant de ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Ou qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on ne t'a pas fait? Ce que tu aurais voulu recevoir et que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas rester dans une victimisation. Ça aussi, c'est une immaturité. Ah ben, j'accuse les autres. Une victimisation de l'autre. Ça ne peut pas rester là-dedans. Ce n'est pas possible. Donc, nos actes aussi explique en partie notre immaturité humaine, ou notre maturité humaine. Je sais que j'ai peut-être un manque de confiance, etc. Voilà, je me suis donné un coup de pied là où je pense, et puis j'ai pris des engagements, je me suis lancé dans un truc où je n'avais pas forcément, mais j'y suis allé. Et derrière ça, on verra au plan spirituel l'importance de la confiance. Oui, il faut vraiment unir toujours les deux choses. Il existe aussi des immaturités qui viennent de blessures reçues dans l'éducation. Des blessures, je vous parlais du rapport au père, ça peut être des blessures en rapport avec du lien avec son propre corps aussi, ça peut être des blessures par des parents colériques ou des parents absents dans leur éducation. Bon, y a des blessures en nous. Et après, j'ai marqué différence entre immaturité, blessure et péché. Ça, c'est intéressant, c'est que bien souvent, quand on regarde pour ceux d'entre vous qui se confessent, souvent, quand on me dit, mais je confesse toujours la même chose. Alors, ça tombe bien, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Ah, super, j'ai tué père et mère, mon père, c'est super, là, j'ai quelque chose de nouveau à vous dire. Ben non. Pourquoi on confesse souvent la même chose? Parce que le péché, c'est-à-dire le péché toujours volontaire, qui nous éloigne du Seigneur et qui nous éloigne au fond d'une maturité humaine, le péché souvent s'ancre dans des blessures. Donnons un exemple. J'ai peut-être pas eu la tendresse que j'aurais attendue de la part de mes parents, enfant, parce que bien souvent les blessures c'est enfant. Eh bien, je vois que ça fait que que ce soit des plaisirs personnels, ou je vais de bras en bras, ou je vais cherchant une affection, je peux très bien noter en moi ce besoin de tendresse. Autre chose, c'est les actes volontaires que je pose, mais en fait qui ne vont faire qu'approfondir la blessure. Oui, c'est alors que d'un manque de tendresse, c'est d'abord aussi se donner de la tendresse de façon saine, la tendresse à soi-même. C'est valoriser à la fois son corps, valoriser ce qu'on est. C'est comme ça qu'on ressort, c'est pas en allant de bras en bras, parce qu'on va se sentir à chaque fois plus vide et plus... ça, c'est typiquement de l'immaturité. Vous voyez, donc, il y a blessure, immaturité, péché, ben voilà quand je passe à l'acte. Donc, c'est intéressant de voir que quand vous vous préparez pour le sacrement de la réconciliation, vous fassiez aussi une sorte déjà, qu'est-ce qui est volontaire? Voilà, parce que c'est toujours volontaire, le péché n'empêche pas malgré soi. Qu'est-ce qui est volontaire? Et qu'est-ce qui aussi est invité à... Il faut mettre des gens... Ça, il y a des chaises. C'est bon, ça va et qu'est-ce qui, au fond, ne dépend pas forcément de moi, mais en quoi je me suis livré aussi à un combat spirituel, un combat intérieur? C'est sûr, pour sortir de l'immaturité, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait aussi avec l'aide, on le verra tout à l'heure. Ça se fait avec une aide. Moi, en tout cas, je vous invite vraiment à faire une relecture de vos vies, de dire justement où est-ce que... Ou alors la procrastination, voilà, je repousse toujours et sans cesse les choses à faire. Mais ça, c'est une immaturité. Du coup, en termes de responsabilité, c'est normal que ton chef t'engueule, tu dis t'as pas remis tel dossier, telle heure, tel moment, etc. Bon, c'est un peu normal. Donc, qu'est-ce qui fait... dans mon rapport au temps, pourquoi est-ce que mon rapport au temps n'est pas équilibré? Hein, donc c'est poser aussi des actes volontaires vous permettre de... Au plan spirituel, en quoi la maturité consiste? C'est chercher la volonté de Dieu et demander la force de l'accomplir. C'est avoir une... La foi est dans l'intelligence, mais l'intelligence éclaire notre volonté pour qu'ensuite on se mette à l'école du Seigneur. Et une immaturité, ça consisterait faire l'expérience de Dieu, mais pas le mettre en pratique. Hein. Comme dit Jésus en Matthieu 7, 21, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà. J'ai fait une expérience du Seigneur, le Seigneur, avec sa parole, me conduit aussi à aller plus loin. Est-ce que j'en reste, et c'est le deuxième point, de l'immaturité spirituelle, est-ce que j'en reste simplement à l'aspect émotionnel? Ah, mais moi, j'aime bien quand c'est des groupes de prière avec tel chant. Vous voyez, on veut faire de sa foi, on a revécu des choses au plan affectif, émotionnel, et on pense que la maturité spirituelle, c'est vouloir revivre. Oui, on se remet dans les circonstances où on a revécu peut-être une grâce sensible, mais la vie spirituelle, c'est pas d'abord au niveau de la sensibilité. C'est d'abord croire en la parole de Jésus. Hein. C'est d'abord l'intelligence qui adhère à un Dieu qui se révèle. C'est ça la foi. Et donc l'immaturité spirituelle consisterait à en faire une question d'émotion, ou alors le troisième point, c'est de bricolage spirituel. Et ça, c'est le pape Benoît XVI dans son excellente homélie à Cologne au JMJ, qui dit « La religion devient presque un produit de consommation, on choisit ce qui plaît, certains savent aussi en tirer un profit. Mais la religion recherchée comme une sorte de bricolage, en fin de compte, ne nous aide pas, elle est commode, mais dans les moments de crise, elle nous abandonne à nous-mêmes. » Ah oui, ça c'est sûr. On rentre dans la foi. se bricole pas une fois. Ah ben non, il a l'église catholique, moi, ah, ça je prends ça, mais moi je me sens... Quand arrive la crise de foi, si j'ose m'exprimer ainsi, sur quoi va t'appuyer ta foi si elle s'appuie sur ta propre cohérence et que toi t'es en crise? Sur rien du tout. Ah ben j'ai perdu la foi, non, on perd pas sa foi. À chaque fois qu'on perd son portefeuille, c'est possible. Ou alors l'adhésion, d'où l'importance de la formation et la formation intellectuelle. Au niveau de sa vie de foi, ça demande une formation de l'intelligence, et ça, le pape Benoît XVI, sur Corée, vraiment est extraordinaire au niveau de clarté, etc. Parce que justement, on voit une sorte d'immaturité qui consiste à faire du bricolage. Alors c'est sûr qu'il y a un peu une. Vous me direz, oui, mais il ne faut pas rentrer dans une routine, aller tous les dimanches à la messe, etc. Mais ben, on se brosse bien tous les jours, voire plusieurs fois par jour les dents. Je ne vois pas pourquoi on y est. Et c'est une routine, mais il y a des bien heureuses routines. On prend sa douche tous les jours, bah, bien heureuse routine pour vos voisins surtout. Voilà, mais c'est. Je vois pas pourquoi il y aurait. Vous voyez, ces rituels, je trouve, ça nous construit, comment vous dire. Il y a un côté austère, il y a un côté rugueux, parce que j'ai pas forcément envie. Vous voyez, ça c'est typique d'immaturité. Ah ben j'ai pas envie. C'est pas question d'envie. Est-ce que tu sens que ça te construit ou tu sens que ça... Si tu vis que par les envies, bah, typique, voilà, c'est le chien crevé au fil de l'eau, voilà, mais il a les envies, la mode, etc. Il va, mais est-ce que c'est ça, où tu vas? Ah, mais, et ensuite, il pète les plombs parce qu'il ne sait pas où il va. Ben, bien sûr qu'il ne sait pas où il va parce qu'il suit le mouvement. Mais alors que souvent la comparaison a été faite du chrétien, c'est au contraire le saumon qui remonte jusqu'à la source, qui va à contre-courant, mais lui, c'est pourquoi il y va. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant de dire que, attention, c'est justement ce côté immature. Au niveau de la foi, c'est pareil. Il y a un moment donné, ou alors c'est tel prêtre, mais si c'est tel prêtre, j'aime bien. Ah, ben, là, ce prêtre-là, il est super, etc. Ben, voilà, on starise les prêtres. Mais non, mais c'est immature. Bon, on peut bien accrocher avec un prêtre, tant mieux. S'il vous fait du bien, tant mieux. Que votre foi soit liée, ah ben non, ça a changé de ma paroisse, ça a changé de curé, ah, j'ai plus la paroisse. Ça ne veut rien dire. Excusez-moi, ça ne veut rien dire. C'est là où on voit que le côté adulte, c'est qu'au fond, c'est ma vie de foi. Ben, je veux dire, comme disait Kennedy, au lieu de te demander ce que les États-Unis peuvent faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Ben, au lieu de te demander de rentrer à la consommation paroissiale, qu'est-ce que tu peux faire pour ta paroisse? C'est ça, c'est ce passage, justement, la maturité, où je reçois ce qui est normal quand on est jeune. Mais moi, la maturité, c'est le passage où on rentre dans une logique de don. Ben oui, c'est vrai, aujourd'hui, la paroisse, elle n'est pas top, etc. Qu'est-ce que je fais pour que ce soit top? Qu'est-ce que je mets en place? Voilà, il n'y a rien pour les jeunes de mon âge, il n'y a que des plus de 70 ans, j'en sais rien. Ben voilà, ben, y a toi qui as moins de 70 ans. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu subis ou tu te boostes et tu dis, ben moi, mon père, est-ce que je peux mettre... Ben, le prêtre, sauf s'il est un peu taré, bon, il va dire oui. Bon, il y a aussi des prêtres tarés, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il va dire oui, ben, si tu veux lancer un groupe de jeunes pros dans ta paroisse où il n'y a rien, ben voilà, du coup, il y a un an et demi, à Compiègne, il n'y avait pas de groupe de jeunes pros, aujourd'hui, on est 30. Oui, parce qu'ils se sont mobilisés, etc., parce qu'il y avait un vrai besoin pour votre génération. Donc je pense que c'est important de se dire ça. Donc le lien entre maturité humaine et spirituelle, je vous en ai dit un mot, de ne pas spiritualiser, de ne pas demander à la spiritualité de venir justifier mes immaturités humaines. Mais en même temps, c'est intéressant de se dire qu'au plan humain, il y a des choses que peut-être qui m'accompagneront peut-être jusqu'à la mort. Je pense qu'il faut aussi parfois en prendre conscience. Il y a des gens qui sont colériques, par exemple. Il y a des gens qui sont justement dans une quête d'affection, surtout les choses qui sentent de la violence, mais souvent ça vient de l'enfance, ça vient de l'éducation. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas devenir saint. Vous voyez, prenons un exemple, Saint François de Sales. Saint François de Sales est un nerveux comme pas possible. Hein, et pourtant, docteur de l'Église, hein, Saint François de Sales, 16e siècle, si je ne me trompe, hein, évêque de Genève, il a été viré de Genève par les protestants, il s'est réfugié à Annecy, mais il était tellement nerveux, il y a un côté un peu violent chez lui, il était tellement nerveux que sous le bureau qu'il occupait, On a vu les traces dans le plancher. Il a creusé le plancher tellement que, tu vois, il se défoulait avec ses pieds, quoi. Tu me diras, c'est mieux qu'avec ses pieds que sur le plancher que, autre chose. Mais il se défoulait avec ses pieds, etc. Ce qui fait que, quand on a bougé les meubles, etc., à sa mort, on a vu les traces de pieds dans le plancher que, ben voilà, il rongeait ses freins. Mais ça n'a pas l'empêché de devenir un saint. Et même l'apôtre de la douceur. Alors que c'était un violent. C'était pas un doux. Mais il a demandé avec la grâce du Seigneur, et il a fait effort sur lui, pour douceur, ne veut pas dire mollesse. Hein? Mais justement, face au jansénisme qui commençait à poindre le bout du nez, bah, il a donné des. Je veux dire, mort trop tôt, malheureusement, comme souvent les saints, mais le jansénisme n'aurait certainement pas pris si saint François de Sales, avec son intelligence en plus, avait pu répondre. Hein? Donc, vous voyez, juste pour vous dire que. Ne prétextons pas nos immatures. Voilà, être saint n'est pas, je veux dire, ne veut pas dire un caractère parfait. Être saint veut juste dire que on veut grandir dans l'amour avec cette imperfection que je constate de violence, cette imperfection. Mais je prends les moyens pour lutter contre. Hein. Donc, maturité humaine. En quoi se consiste la maturité humaine? Donc, grand 1, petit 1, égalité d'esprit. Il y a trois critères. Égalité d'esprit, prudence dans les décisions, bonne appréciation des événements et des personnes. Donc ça, c'est les trois points de la maturité humaine. Égalité d'esprit, c'est une certaine égalité d'humeur. D'abord, d'où je tire ces trois points? Ces trois points, je les tire d'un document qui est dans le Concile Vatican II, un décret pour la formation des prêtres, qui s'appelle Optatam Totius, que vous connaissez bien. Si vous ne savez pas comment donner un nom un jour à vos enfants, vous pouvez les appeler Optatam Totius. Donc, vous savez que les documents du magistère commencent par les premières lettres en latin, vous ne le savez pas, mais vous le savez maintenant. Hein, et donc, c'est quelque chose sur la formation des prêtres. À un moment donné, comment est-ce qu'on évalue la maturité d'un candidat au sacerdoce? Et c'est ces trois points-là qui sont retenus. Je trouvais ça intéressant, c'est quand même dans le Concile Vatican II, donc c'est sa force de concile, c'est-à-dire qu'elle est la force la plus importante dans le magistère, dans l'enseignement de l'Église. Et donc c'est pas par hasard, surtout que la maturité aujourd'hui par rapport à la vocation sacerdotale et religieuse, et même au mariage, est quelque chose qui justement pose parfois difficulté. Et donc, premièrement, égalité d'esprit. Donc l'égalité d'esprit, c'est-à-dire c'est une certaine stabilité de caractère. Hein, ça s'oppose au fait d'être cyclothymique. Alors, cyclothymique, c'est pas celui qui fait des vélos. Cyclothymique, c'est les montagnes russes. Tu vois, ton caractère, c'est un jour complètement exalté, etc., magnifique, etc., le lendemain, complètement dépressif. Bon, ouais. Voilà, ça, c'est le cyclothymique. Hein, et donc, c'est la capacité aussi, l'égalité d'esprit, la capacité de vivre le présent. Cette capacité d'accueillir le réel, j'en ai parlé, et d'avoir le rôle des émotions et la place de l'intelligence. Parce que c'est vrai qu'en soi-même, on sent des émotions. Il ne s'agit pas de briser. Les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Les émotions, elles sont là. Tu peux sentir de la colère, tu peux sentir de l'amour, tu peux sentir du découragement, de la tristesse. Bon, les émotions, elles sont là. Mais qu'est-ce qui m'aide à prendre conscience? Et à faire que ce ne soit pas les émotions qui tiennent le gouvernail de ma vie, mais bien l'intelligence, c'est justement de permettre à l'intelligence de mettre une distance par rapport aux émotions intérieurement. Je vois que j'ai de la colère. Déjà, je dis des mots, je verbalise, je suis en colère face à telle situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ben, je vais prendre quelques temps de silence? Parce que ce que je vais dire, ce que je vais faire, c'est probable que ce soit sous le coup de la colère, que ce soit hors cadre. Justement, il n'y a pas l'égalité d'esprit. Du coup, je trouve l'intelligence, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, de voir l'intelligence qui est un apprentissage à se connaître, connais-toi toi-même, hein, comme disait Socrate, se connaître soi-même, de dire, dans telle situation, je sens monter en moi toute une colère formidable, une violence formidable. Ben, l'intelligence permet déjà de prendre conscience, puis ensuite d'apaiser, de mettre une distance pour que ce ne soit pas la colère qui gouverne mes actes. Hein, d'où la place de l'intelligence dans cette égalité d'esprit. Attention au rôle de l'imagination. L'imagination, elle est ni bonne ni mauvaise, encore une fois, elle est ce qu'elle est. Mais l'imagination, parfois, c'est pas elle de prendre le gouvernail de ma vie, parce que l'imagination, elle me fait penser des choses qui ne sont pas dans le réel. Il n'y a pas très longtemps, un frère vient me voir, mais qu'est-ce que tu as avec moi? Ben, j'ai rien avec toi. Si je sais que tu as quelque chose contre moi. Ben non, à la messe, tu m'as tourné le dos. Oui, ben, à la messe, on bouge, c'est vrai. Et il est possible que je t'ai tourné le dos. J'étais en train. Bon, mais, oui, l'imagination. Puis, rentre dans le réel, cher frère, rentre dans le réel. Ça ne fera pas de mal. Justement, je voulais te dire, mais, en fait, oui, c'est moi qui. Oui, en fait, j'ai quelque chose contre toi. C'est vrai, maintenant, tu me rappelles. Donc, du coup, non. Mais rentre dans le réel. Rentre dans. C'est, à la baisse, on bouge. C'est pas parce que je tourne le dos. Voilà. Alors, comment il m'a regardé ce matin, il m'a fait oui, mais pourquoi tu m'as regardé? Oui, j'avais une poussière dans l'œil. Donc, voilà. Et du coup, je me suis mis à tout de suite inventer, en positif comme en négatif. Donc, retour dans le réel pour avoir l'égalité d'esprit. La prudence dans les décisions. La prudence, c'est une des quatre vertus cardinales, comme vous le savez. Quatre vertus cardinales, donc, avec la force, la tempérance et la justice. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, virtus virtutis en latin, c'est force. Vertu, c'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes. Hein, le virtuose, un pianiste virtuose, il a fait au début les gammes, quand c'est un voisin qui fait ça, c'est complètement exaspérant. Mais bon, mais il a fait des gammes, et ensuite c'est devenu un virtuose. Mais il n'a pas commencé en étant virtuose. Et pour nous, c'est pareil. Pour nous, le fait de la vertu, c'est la répétition des actes. Je vais faire des actes de courage parce que je sais que je n'ai pas trop confiance. Ben, je vais poser des actes de force. Force, ce n'est pas violence. Hein. La force, c'est tenir bon dans la difficulté ou aller à la rencontre de quelque chose de difficile. C'est ça, la force. C'est le courage, au fond. Ben, même si j'ai, ben, je m'appuie sur la grâce de Dieu pour faire cet acte de courage. Même si, humainement... Ben, mais j'y vais, mais ben, c'est ça la vertu. Ben, le premier pas dans la vertu coûte quelqu'un qui n'est pas courageux, qui a peur du conflit, etc. La première fois qu'il affronte un conflit, eh bien, c'est difficile. Parce qu'il a, ben, il a fait une première fois. Ensuite, la deuxième, la troisième, quatrième. Au bout de la dixième fois, il sera beaucoup plus confiant en lui-même. Il aura pu. Bon, moi, j'ai appris. À affronter le conflit dans la vie religieuse. Mais dans ma famille, c'était calme plat, hein, poussière sous le tapis. Bon, ne dis rien à ton frère, ne dis rien à ta soeur, ne dis rien à... Ça, c'est complètement anxiogène, vous voyez. Donc, du coup, et dans une vie religieuse où tu vis avec des gens que tu ne choisis pas, c'est juste impossible. Et tu ne peux pas prétexter. En plus, dans la vie religieuse, on peut spiritualiser, parce que dans le genre spirituel, c'est pas mal. Donc du coup, ah ben non, je suis victime de mes frères, je suis la mal-aimée, le mal-aimé ou la mal-aimée, comme Thérèse de Lisieux, qui n'était pas aimée de sa sœur. Bon, ben, je peux faire tout un truc. Non, le problème, c'est que j'étais pas mûr. J'étais immature. C'est normal, quand tu rentres à 20, 25, 27 ans à vie religieuse, t'es immature. Donc, ben, il a fallu grandir. Et grandir, ça a été apprendre à gérer le conflit. Alors maintenant, j'ai tellement appris à gérer le conflit que... Voilà, j'ai pas du tout peur, quoi. Donc, c'est les autres qui ont peur. Donc, mais bon, là aussi, il faut remettre la barre un peu dans la douceur. Bon, donc, du coup, voilà. Donc, voilà. La vertu de prudence. Donc, la prudence, c'est pas appuyer sur le frein, c'est pas ça la prudence. La prudence, c'est concerne l'action qui vise un bien. Donc, est-ce que la prudence vient ordonner mes actions? Et faire de, et que l'intelligence me permette. Bon, vous avez pris en prudence la décision de venir. Vous aviez peut-être d'autres propositions pour ce soir. Vous aviez peut-être le besoin de vous reposer. Vous aviez peut-être d'autres choses. Mais en prudence, et souvent, on a à choisir entre le bien et le bien. C'est ça qui est difficile. Hein, c'est rare que le mal et le bien, on peut choisir. Mais bien souvent, ce qui s'impose à nous, c'est choisir entre le bien et le bien. Et donc, du coup, de voir quel est le meilleur bien. Ou voir parfois le moindre mal, parfois on peut parfois choisir entre le mal et le mal, dans une situation difficile aussi. Hein, et du coup, et la prudence ordonne les moyens par rapport aux fins et les hiérarchise les fins entre elles. C'est-à-dire, je mets, c'est juste du bon sens, hein, c'est pour faire venir ici, ben, vous avez quitté votre boulot, vous avez pris ceci, vous êtes passé peut-être par chez vous, vous êtes, je ne sais pas quoi, détendu, vous avez fait tout un certain nombre d'actions, vous avez déjà planifié dans votre tête qu'est-ce que vous allez faire pour arriver à peu près à l'heure. Quoi. Donc, du coup, mais ça c'est la prudence, c'est la vertu de prudence. Du coup, et vous dites, donc du coup, la prudence, c'est ce qui permet de... Et alors, dans les étapes de la vertu de prudence... Il y a trois étapes qui sont très importantes, surtout pour les grandes décisions. C'est sûr qu'entre choisir un pain au chocolat et un pain au raisin, il n'y a pas besoin non plus de réfléchir à 40 ans. parce que là, sinon, il y a un problème. Donc, la prudence, c'est vraiment la délibération. Quand tu dois changer de job. Prenons le cas. Tu veux réorientation professionnelle. Tu te dis, bon, ça ne va pas mon boulot. Bon, alors, ce n'est pas seulement ça ne va pas parce que c'est un caprice, mais je sens que ça ne me correspond pas. Du coup, j'ai fait vérifier en amont que ce n'était pas simplement de l'ordre du caprice, mais que peut-être, est-ce que ça ne va pas? Parce qu'en toi, il y a des choses qui ne vont pas, et du coup, ça t'oblige au contraire. Tu es là, dans ce lieu-là, pour travailler sur toi-même, pourquoi pas? Ou alors, objectivement, ça ne va pas. Donc, délibération, je me dis à moi-même, faire ce discours intérieur, dire pourquoi je veux changer. Ensuite, conseil, demandez à des personnes avisées, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te paraît, c'est sûr que si au bout de tous les 3 mois tu changes de travail, on va dire là, instabilité. Mais demandez conseil à des personnes qui peuvent te donner le conseil. Et troisième aspect de la vertu de prudence, c'est le passage à l'acte. Tu passes à l'acte. Mais vous voyez, par exemple, des gens qui procrastinent, des gens qui... Ah non, mais je n'ai pas assez délibéré. Il faut encore que je délibère. Il faut encore que j'aille demander conseil au père Intel ou à M. Machin ou à Madame... Et jamais il passe à l'action. Ça, c'est une forme d'immaturité, par exemple. Ça c'est sûr. Et jamais il passe à l'action. Ils sont toujours... Ah ben, demain. Donc, on voit bien ces immaturités dans les prises de décision. Ou alors, on agit sous le coup de l'impulsion, parce que parfois on a eu un clash avec son boss, etc. Ma démission, vous l'avez demain sur votre bureau, ou la voici, voilà. Bon, voilà, ça c'est typiquement le truc à pas faire. Surtout si on n'a pas un plan B, parce que ça, c'est le temps qui court, c'est un peu compliqué. Sous le coup de ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Mais de se dire, voilà, je vais prendre du recul et pour dire, au fond, ce clash que j'ai eu, ce conflit, à quoi il est dû, etc. Mais il faut redélibérer, c'est sûr, de pas passer directement à l'action sans avoir vécu la délibération et le conseil, surtout quand une grosse décision comme un changement d'orientation professionnelle. Vous voyez, souvent, on se met dans des situations impossibles. Parce qu'on agit uniquement sous le coup de l'émotion, positive ou négative. Là, j'ai dit une émotion négative avec un conflit. Je vous donne un cas. Une jeune fille qui m'appelle, de vos âges, m'appelle, voilà. Dans mon travail, il y a un garçon qui me dit qu'il a de gros problèmes financiers, que ses parents, il a fait un emprunt, c'est un garçon qui a une trentaine d'années, 35 ans, peut-être 38, et que pour ses parents, et que ses parents finalement n'arrivent pas à rembourser, et que et puis c'est un garçon très sympathique, vraiment père de famille, sa femme va accoucher du troisième enfant, et que dire, dans 3-4 jours, on va me mettre à la porte de chez moi. Et la jeune fille me dit, engagée dans sa foi, etc., mais qu'est-ce que je dois faire dans... Donc elle prend conseil. Elle me dit, mais vous rendez compte, dans 3 jours, il est à la porte, etc., etc. Mais vous voyez, si vous agissez uniquement sous le coup de l'impulsion, on va faire une quête, on va payer tes emprunts, on va payer... Bon, peut-être il faut faire ça. Mais ce n'est certainement pas la première décision à faire. Parce que des problèmes d'argent, en général, ce n'est pas que des problèmes d'argent. C'est souvent des problèmes de discernement qui ont mis la personne dans des problèmes d'argent. Moi, j'ai vu ça 1000 fois. Du coup, je dis non, le conseil à faire, là où tu peux être de mon conseil, parce qu'il ne semblait pas au niveau des emprunts, etc., il ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Bon, mets-le en contact avec quelqu'un qui s'y entend en finance, etc., qui pourra un peu le coacher. Mais on n'est pas là pour, comme le chevalier blanc, à ouvrir les parachutes pour que surtout se passe rien. Vous voyez, ça, c'est aussi une forme de. Ça n'aide pas à faire grandir l'autre. On n'est pas là à vouloir résoudre les problèmes de tout le monde. Alors c'est sûr qu'on se sent valorisé, puis Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres, mon père, etc., etc. Oui, mais simplement que aimer les uns les autres, ça c'est pas l'aimer. Si tu ouvres le parachute, imaginons que tu trouves la somme dont il a besoin pour dans 3 jours. Mais est-ce que c'est vraiment l'aider ? Alors, il y a des cas de force majeure, bien sûr, mais là ça faisait plusieurs années que l'emprunt n'avait pas été payé, donc c'est pas un truc qui est né d'hier. Et 3-4 ans, il a rien mis en place en 3-4 ans. Ah oui, c'est, j'y ai pas pensé. Tu vois, elle était prête à dégainer son portefeuille, à lui donner. Donc, vous voyez, c'est typiquement, je trouve que d'où la vertu de prudence aide à prendre seulement les bonnes décisions. Et parfois, nous sommes mis, surtout au plan affectif, parce qu'au plan affectif, par définition, c'est affectif et donc émotionnel, on serait souvent guidé par l'émotion. Or, moi qui fais beaucoup de préparation au mariage, je ne l'ai pas dit, mais je suis très. C'est le gros de mon ministère, c'est la préparation au mariage. Et du coup. Je suis très attentif justement à dire que tout mariage d'amour est aussi un mariage de raison. On a des raisons objectives pour. Parce que ces raisons-là vont servir d'appui pour faire mémoire quand viendra la crise et qu'on dira dans un an, 10 ans, 20 ans, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est elle, en fait j'ai fait une erreur. Non, parce que tu n'as peut-être juste pas assez mis de mots pourquoi c'était lui, pourquoi c'était elle. Du coup, ça, en vertu de prudence, tu n'as pas passé par la délibération qui te permet de mettre des mots sur ton choix sentimental. Troisième point, la bonne appréciation des événements et des personnes. Donc, on est toujours dans la maturité humaine. Il y avait égalité d'esprit, prudence dans les décisions, bonne appréciation des événements et des personnes. Où est-ce qu'il peut y avoir des formes de maturité là-dedans? Probablement tout ce qui est de l'ordre de l'emprise. Je vis sous le regard des autres. Je vis sur ce que l'autre pense. Typiquement, une immaturité, c'est vouloir plaire. C'est un esclavage. Et Jésus est venu nous sortir de l'esclavage pour nous conduire à la liberté. Vouloir plaire, alors il ne faut pas non plus vouloir déplaire à tout prix, parce que sinon c'est. Mais on n'est pas là pour. Vous voyez, vouloir plaire, c'est. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se négliger ni physiquement, ni. Voilà, c'est. Ou être un véritable ours mal léché. Non, on n'est pas obligé de faire ça. Vous voyez, mais vouloir plaire, c'est celui ou celle qui vit sous le regard de l'autre, quelque part par procuration. Ou vouloir plaire à une jeune fille qui va peut-être se marier, mais bon, j'ai quelques doutes. Dans quelques mois, elle n'est pas là, rassurez-vous. Elle me dit un truc comme ça. Elle me dit, mais c'est vrai que mon mariage, j'en suis pas du tout sûr, mais ma mère est dépressive. Si je repousse mon mariage, mais elle va péter les plombs, elle risque de se suicider, etc. Elle est sous emprise. Alors du coup, j'ai appelé le prêtre qui n'est pas préparé au mariage. J'ai dit, écoutez, père, ben, cette personne-là, il y a un problème, moi. Bon courage. Passage de patates chaudes. Voilà. Ah ben, il n'y a pas de raison, je fais toujours les mêmes qui les patates chaudes. Donc du coup, mais vous voyez, c'est typiquement une. Mais parce qu'elle était sous emprise, parce que la réaction de sa mère, ce que va penser ma maman, voilà, c'est ça qui va compter. Et je veux faire plaisir à ma maman. Et on est à 8 mois du mariage. Vous vous rendez pas compte, on a déjà payé les acomptes, etc., etc. Bon, oui, mais si tu n'as pas cette sécurité, si ta maman, c'est très bien, mais c'est pas ça. Je veux dire, librement, est-ce librement et sans contrainte? C'est la première question que pose le prêtre dans le dialogue avec les fiancés. Est-ce librement et sans contrainte? Ben, une fille comme ça n'est pas libre. En plus, elle me l'a dit, alors là. Du coup, ça, des trucs comme ça. Si vous entendez ça autour de vous, dans vos amitiés, etc., ça, il faut aller voir. Parfois, il y a des manques de courage, moi, j'ose le dire très clairement, et donc des manques d'amour, parce que l'amour a pour signe le courage. Des personnes qui disent, maintenant, je n'accepte pas ça, mais ça va faire tellement de peine à mes parents, tellement de peine, etc. Et la personne elle-même disant, et du coup, si vous n'allez pas voir le prêtre qui. Il y a quelque chose d'injuste. Parce que injuste, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc, au prêtre qui accompagne, ou au couple accompagnateur, etc., est dû la vérité sur. Donc là, et l'engagement est tellement important que ne rien dire en ces cas-là, je trouve ça vraiment de la lâcheté. Et ensuite, quand le couple explose, ah ben je l'avais bien dit. Ben non, justement, tu ne l'avais pas dit. Ou tu l'avais dit à la mauvaise personne. À tes copines, bon, je ne sens pas du tout ce couple-là, etc., mais ce n'est pas tes copines qu'il faut le dire. Voilà, c'est donc bon. Vivre sous emprise. Tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, parce qu'on est beaucoup dans une société émotive, émotionnelle, etc. On voit beaucoup ça. On est beaucoup dans cette émotion, bon, en général. Du coup, dans ces eaux-là, les manipulateurs se sentent comme vraiment comme un poisson dans l'eau. Je veux dire, se sentent vraiment tout à fait à l'aise. Et du coup, utilisent l'émotion. Du coup, voilà, pour te. Allez, mais sois sympa, mais tu, Comme je n'ose pas dire non, parce que je n'ose pas dire je, ben, du coup, je fais ce qu'on me dit. Alors, soit sympa, soit culpabilisation. L'autre ne me renvoie pas un choix libre, mais me culpabilise, je culpabilise de ne pas faire ceci. Ben non, alors soit objectivement, parce qu'il y a problème, soit parce que tu n'as pas à culpabiliser. Il n'y a pas très longtemps, voilà, il y a une personne qui vient me voir, etc. Mon manager me dit, je sais que sur toi, il y a des choses dont on parle. N'en dis pas plus. Non, mais je le sais, ne t'en fais pas, je suis au courant. Et puis le garçon, il me regarde, mais non, il y a le courant. Mais dites-moi, dis-moi davantage d'informations, là. Non, mais je suis au courant. Vous voyez, un truc comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Soit il y a un vrai problème, on le dit. Mais s'il n'y a pas de problème, on ne le dit pas. Hein, typiquement, ça c'est typiquement... Le manipulateur, à quoi tu le reconnais, il culpabilise. Et il culpabilise pour arriver à ses fins. Désir de plaire, j'en ai parlé, donc liberté intérieure. Donner une confiance excessive à quelqu'un. Là aussi, parfois on s'enthousiasme, surtout dans la vie professionnelle, etc. On voit quelqu'un, je m'agir super, etc. Une confiance excessive, aveugle. Ben non, juste appréciation des événements et des personnes. Ou donner à un événement une importance excessive, que ce soit deuil, maladie, échec, succès, péché, voilà. Mon premier job est loupé, etc. De toute façon, je n'arriverai jamais, je suis fichu. Non. Ça manque de maturité. Tu as eu un échec professionnel, soit, fais la relecture de cet échec professionnel. Et puis essayer de voir peut-être bilan de compétences, pourquoi tu es fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que... Voilà, c'est juste donc une certaine maturité, mais voilà, j'ai trop d'importance à un événement ou trop d'importance à une personne. Maturité spirituelle, c'est le grand 2. Alors, en quoi consiste la maturité spirituelle ? C'est faire d'abord le choix de Dieu dans sa vie. Vous savez, il y a 3 choix à faire dans sa vie. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, mais il y en a 3. D'abord, le choix de Dieu dans sa vie. Parce que vous avez peut-être, je suppose pour la majorité d'entre vous, une éducation catholique, mais ce n'est pas pour ça qu'on est catholique. Il y a à un moment donné un choix à faire de sa propre vie de foi, et à se positionner. Où est-ce que j'en suis d'une foi reçue à une foi voulue et acceptée et transmise, hein ? Ensuite, renoncer aux idoles, au niveau spirituel, renoncer aux idoles, aux fausses images de Dieu. Toute la Bible est là-dessus, c'est Israël, le péché d'Israël, c'est se tourner vers les idoles plutôt que de se tourner vers le Dieu vivant. Mais le Dieu vivant, on ne le voit pas. Vous vous rappelez Moïse qui cache son visage parce que Dieu passe, etc. On ne voit pas Dieu sans mourir, etc. Du coup, pour Israël, on préfère se faire un veau d'or qu'on voit. Du coup, c'est plus facile d'adorer quelque chose qu'on voit. Et donc, on voit bien que la maturité spirituelle, c'est renoncer aux idoles pour accueillir, pour rentrer dans la foi. Et l'idole, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Ah, ce qui est le plus important pour moi, c'est mes enfants. Ben, non. Ce qui est le plus important pour toi, c'est tes enfants, ils vont partir, tu vas mourir, c'est aussi la vie comme ça, et puis tu laisseras tes enfants derrière. Et ce qui t'attend, c'est la vie éternelle. Je sais pas. Déifier ses enfants, c'est pas leur rendre service, dans le genre angoissant, parce que forcément, ils se sentent pas forcément à la hauteur, ce qu'on peut comprendre, par ailleurs. Mais, et donc, du coup, voilà, on les a déifiés, etc., et quand ils partent, le couple s'écroule, ou pas quoi. Bon. Non, on ne met personne, ni une chose, à la place de Dieu. Hein. Le plus important, c'est ma carrière. Non. Les idoles, c'est intéressant, les idoles, elles n'exercent pas les 5 sens. C'est intéressant, c'est pas le sujet de ce soir. Mais l'idole elle, comme dit le psaume, elles ont une bouche et ne parlent pas, aucun souffle ne sort de leurs narines, elles ont des pieds, ne marchent pas. Voilà, elles n'ont ni touché, elles n'ont rien, l'idole, elle n'a rien. Elle n'est pas source de vie. Or, le Seigneur, c'est celui qui est source de vie. Mais pour rentrer dans cette source de vie, c'est l'attitude de foi. Et de confiance en lui. Bon. Et donc, En quoi consiste la maturité spirituelle? Donc renoncer aux idoles. 3, conformer sa vie à Jésus et à Jésus crucifié. Donc l'accueil de l'épreuve. Dans nos vies, il y a des épreuves, encore une fois, que l'on n'a pas choisies. Bah, c'est vrai, des véritables épreuves de santé, par exemple. Des épreuves affectives. Bah, voilà, tu avais commencé une histoire avec quelqu'un, puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bah, ça s'est terminé. Bon, c'est des choses... Bon, mais est-ce que je le vis, au fond, en union avec le Seigneur? Ce qui n'empêche pas une relecture, là aussi, c'est pas... Peut-être on fera un thème sur spiritualité et psychologie plus tard, mais d'accueillir... À un moment donné, il faut prendre... On est tous soit sur la croix, soit au pied de la croix. Toute l'humanité, soit sur la croix, soit au pied de la croix. Donc, alors je sais que ce n'est pas vendeur, je sais que ce n'est pas... Voilà, mais c'est pas... Jésus n'est pas venu pour nous plaire, de nous faire plaisir. Il est venu pour nous conduire vers une liberté intérieure. Grandir dans la foi, donc la formation doctrinale, c'est ce que vous faites aujourd'hui, ça c'est très bien, se former, hein, pourquoi je crois, hein, parce que souvent on voit que, au plan pro, vous avez fait des études, souvent à des grandes écoles, etc., mais au plan spi, c'est le catéchisme, en plus c'était le catéchisme du coloriage, donc du coup, inutile de te dire que t'es plutôt nul, quoi, donc au plan spi, pourquoi tu crois à la Trinité? Voilà, c'est pas pourquoi je crois à la Trinité. Mais c'est trois dieux, ben non, mais alors pourquoi tu peux dire c'est un mystère, là tu t'en sors. Bon, mais c'est bien de penser à la Trinité, c'est pas complètement, c'est un mystère, mais c'est pas complètement idiot non plus. Mais donc voilà, donc d'avoir des mots pour sa foi, et je vois beaucoup dans on sent qu'il y a une rupture, mais vous n'avez pas des mots pour expliquer votre foi. D'autres, parfois, en plus, mais d'avoir des mots pour dire pourquoi je crois au Saint-Esprit, pourquoi je crois en Jésus, la Trinité, pourquoi associer mon corps, associer mon sang, les trucs de base, pourquoi j'y crois. Hein, donc, évidemment, grandir dans la charité. 1 Corinthiens 13, qu'on connaît, l'amour prend patience, l'amour, etc. Et donc, tous les inverses de ça, c'est-à-dire, n'aime pas la. Donc, patience, bonté, c'est le signe de la vérité. Mais avoir l'envie, vantardise, orgueil, malhonnête, hein, chercher son propre intérêt, s'irriter, tenir compte du mal, se réjouir de l'injustice, ne pas se réjouir de la vérité, ne pas tout excuser, ne pas croire tout, etc. Bon, ben, tout ça, c'est des manques de foi, quelque part, des manques d'amour. Hein, qu'on connaît, on l'entend souvent dans les messes de mariage. Mais ça, c'est autant de pistes. C'est intéressant de faire une lecture au plan spirituel. Dans ce que saint Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, est-ce que je vois la maturité dans l'amour? Est-ce que c'est... Ben là, je trouve qu'il y a des mots qui sont intéressants, qui expriment la maturité dans l'amour. Moyen de grandir. Parce que vous dites, mais si on coche toutes les cases, et qu'on voit bien qu'on a beaucoup d'immaturité partout, moyen de grandir. Premièrement, l'accompagnement spirituel. Moi, je pense que c'est très important. Ne restez pas seul. Je trouve que vous portez trop seul les choses. Et ce n'est pas, encore une fois, le bon copain ou la bonne copine qui va être le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère. Et les parents, ben voilà, maintenant, on ne demande plus aux parents parce que, voilà, puis vous voulez, c'est normal, vous défaire parfois d'une emprise parentale ou tout simplement, ben voilà, vous voulez être autonome et c'est une légitime autonomie. Donc, l'accompagnement, surtout quand il y a des moments clés dans vos vies. Hein, quand vous sentez qu'il y a des moments, évidemment au moment de construire un couple, au moment d'une réorientation professionnelle, au moment de peut-être où vous sentez qu'au plan spirituel vous avez franchi une étape, etc., de ne pas rester seul. L'accompagnement spirituel, hein, le père spirituel, ça peut être une religieuse, parfois il y a des laïcs aussi qui sont formés, ben, c'est mettre sous le regard de quelqu'un, c'est un acte d'humilité, mettre sous le regard de quelqu'un, eh bien son cheminement. Voilà, la question, par exemple, d'une réorientation professionnelle. Ben, ça, l'Évangile a quelque chose à dire là-dessus. L'Évangile, être chrétien, c'est faire que l'Évangile irrigue ma vie. C'est pas, je suis pas chrétien qu'à la messe. C'est qu'est-ce que l'Évangile me dit de ce... Et qu'est-ce qu'au plan humain, je peux aussi tirer de conséquences de cet accompagnement, de cette recherche de réorientation professionnelle. Vous voyez, donc c'est intéressant de se dire, le fait d'être accompagné, de se remettre sous le regard de quelqu'un d'autre, sachant que l'accompagnement, si vous avez bien suivi, qu'on voit les étapes de la vertu de prudence, c'est le conseil. L'accompagnateur n'a pas à vous dire, fais ceci, fais cela. Il est de l'ordre du conseil. Maintenant, il y a parfois des gens qui agissent de toute façon à l'opposé du conseil, mais ça, c'est C'est le propre de la liberté. On peut demander conseil. Moi, on m'a demandé conseil. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, on n'a pas du tout suivi ça. Il m'a semblé que vous êtes la personne la mieux placée pour prendre la décision pour vous. Mais au moins, vous avez écouté quelque chose qui n'allait peut-être pas dans votre sens. Ou un autre son de cloche. Ou voilà. Donc, l'accompagnement spirituel dans la durée. Moi, je pense que c'est intéressant, l'accompagnement spirituel dans la durée. C'est ce qui permet de marquer un fil rouge dans ma vie. Tiens, il y a des choses qui... Et que la personne puisse, simplement, qui est en face de vous, puisse pointer du doigt, tiens, telle chose, telle chose, telle chose. Tiens, on en a reparlé il y a un an ou deux ans, en arrière. Pourquoi est-ce que, du coup, comment vous avez avancé? Donc, voilà. La pratique des vertus, j'en ai parlé, la force des petits pas, voilà. Ce qui a, là aussi, si vous avez repéré à l'issue de ce topo des immaturités en vous, dites pas, il faut que je change tout en moi, j'ai eu la lumière, il faut que je change tout en moi de A à Z. Ça ne veut rien dire. La force des petits pas, il y a un truc, justement, que changer, comment changer, tu n'as pas forcément la lumière tout seul. Moi, je me rappelle un père de la communauté qui est maintenant auprès du Seigneur, un saint homme, mon maître des novices, un homme qui n'avait pas du tout confiance en lui. Et il disait, pour moi, je n'ai pas la lumière. Mais il a été le père spirituel de centaines et de centaines de personnes. Mais il dit, pour moi, je n'ai pas la lumière. Parce que je suis un nerveux, je suis un anxieux, je suis un... ça n'empêche pas de devenir saint, vous voyez, par exemple. Il faut arrêter, ok. Pour moi, je n'ai pas la lumière. Donc voilà, donc du coup, c'est intéressant de se dire que... De se mettre sous le regard de quelqu'un d'autre. L'espérance, la louange comme décentrement de soi, je trouve ça intéressant au plan spirituel, comme moyen de grandir dans sa vie de foi, hein, dans la croissance spirituelle. Hein, et puis, l'espérance, c'est pas parce que je suis blessé que j'avance pas. On a tous plus ou moins des psychologies blessées. Moi, je trouve, Tim Guénard, vous devez connaître, voilà un type qui a été placé par le juge en prison, etc. Un homme blessé, mais qui a rencontré Dieu et rencontré sa femme, et maintenant, c'est lui qui porte les autres. Ça, voilà l'exemple d'une maturité, quoi. Ne prétextons pas nos blessures pour ne pas avancer. Jésus, vous savez, est ressuscité avec ses plaies. Moi, je trouve ça, c'est d'une consolation extraordinaire. Extraordinaire. Jésus, c'est pas le bodybuildé, etc., Superman, non. Jésus est ressuscité avec ses plaies. Signe que dans nos plaies, il peut y avoir aussi une fécondité. La pratique des sacrements comme moyen de grandir, et puis aussi les engagements. Qu'est-ce que vous et des lieux d'église où vous enracinez un peu, vous mettez, voilà. Je trouve que c'est, là aussi, pensez, soyez pas que consommateur. Où est-ce qu'est le lieu, je vous me donne, bon, votre boulot, mais il y a un appel qui a été fait là pour l'association, par exemple. Peut-être certains s'ont trouvé un écho en eux. D'autres appels vous sont lancés dans les paroisses. Mais le fait d'être consommateur, vous voyez, le fait d'avoir l'infini des possibles, de dire, du coup, je suis complètement libre, etc., du coup, c'est une sorte de jouissance, mais ça ne fait pas grandir. C'est avec un rond-point à 1000 sorties, mais tu tournes autour, et puis il y en a, tu en vois qui ont pris des sorties, qui ont avancé, et toi, tu es toujours en train de ton rond-point. C'est plus un rond-point, c'est un nombril. Donc, du coup, parce que tu n'es pas dans une dimension de don. Donc, être adulte au plan humain, je vous laisse lire tout simplement, être adulte, c'est se tenir debout, s'accepter soi-même, sens des responsabilités, savoir affronter le conflit, qui se positionne les autres, enfin, je vous laisse méditer là-dessus, savoir porter les autres, oui, je pense que c'est ça, c'est qu'on devient adulte, c'est qu'on prend les autres aussi qui nous sont confiés, on les porte dans la prière, on les porte aussi humainement, capable de sacrifice, d'une grandeur d'âme, d'une magnanimité, de courage. Je trouve que c'est là aussi c'est un signe de la personne adulte. C'est ça, elle est... Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et je vous laisserai lire, puisque c'est être adulte dans sa foi. Donc la première, c'était être adulte au plan humain. Être adulte dans sa foi, je vous laisserai lire. Le topo sera mis en ligne aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas le topo, parce que j'ai fait qu'une centaine d'impressions, vous le mettrez, vous le trouverez en ligne. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, c'est du lourd. C'est du condensé. Avez-vous des questions?
J'ai une question simple. Je viens de lire dans l'introduction sur la maturité spirituelle.
Oui.
Il est marqué chercher la volonté de Dieu et demander la force de l'accomplir. Ma question, c'est très simple, c'est comment trouver la volonté de Dieu, comment savoir amener.
Alors, la volonté de Dieu, c'est dans l'accompagnement, entre autres. Ça demande une vie. Pour découvrir la volonté de Dieu, ça demande déjà une... C'est la réponse aussi assez simple. C'est déjà une vie chrétienne habituelle. Si tu pries jamais, si tu recours jamais au sacrement, à la foi de réconciliation et au sacrement de l'Eucharistie, etc. Et c'est, si pas, tu nourris pas ta foi au plan intellectuel, au plan... Bon, cette volonté de Dieu, et puis aussi dans l'accompagnement spirituel, du coup, et puis cette volonté de Dieu, elle est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, c'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas une volonté qui serait extérieure à soi-même, on n'est pas appelé sans le savoir, mais c'est en allant dans le profond de son cœur, en faisant silence, en laissant le Seigneur parler, comme parler, ce n'est pas que j'entends quelque chose, c'est parler, c'est en moi, je vois monter une joie à la pensée, du coup, toute un processus de discernement qui fait justement qu'on arrive à découvrir la volonté de Dieu dans notre vie, progressivement.
Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez d'immaturité. Je veux savoir si pour vous, quelqu'un de mature par excellence, c'est-à-dire, souvent, par exemple, dans un dîner, quand quelqu'un va trop rire ou trop rigoler, on va lui dire...
Ouais.
Est-ce que maturité est signe de sérieux?
Alors, quand il faut rire, ben voilà, papa. Oui, il faut être toujours sérieux. Voilà, moi je suis mature. Bon. Le mature, c'est. Disons, la maturité, c'est rire quand il faut et pas rire quand il faut pas. Je veux dire, mais c'est sûr que. Alors. C'est vrai que quand il y a une blague et que tu ris pas, par exemple, et qu'il faut expliquer la blague, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a des, on sent quand il y a des rires, c'est ce qu'on appelle la cogitative, on ne peut pas parler de tout, mais on sent quand il y a des rires qui sont signes, comme, il y a des rires qui sont, il y a rire avec et il y a rire d'eux. C'est pas pareil. Donc, il n'y a pas de réponse de dire non, être mature, un saint triste et un triste saint. Donc la joie fait partie de la vie chrétienne, la vie mature dans la vie chrétienne. Mais simplement, c'est pas rire à tout bout de champ, etc., pour être le gars sympa. Bien, mais écoutez, merci pour votre attention.